patron te raconte que t'es adroit et gentil. Sois sûr que t'es le nigaud qui fait marcher son bateau. Attends-moi, tigot.
Bienvenue à la complainte du travail.
Le plaisir de l'un, c'est de voir l'autre se casser le cou. L'argent est au bas de l'échelle et le talent part en haut. C'est pourquoi personne en haut, pourtant la vue est plus belle. Attends-moi, tigot, tu vas tomber si je suis pas là. Le plaisir de l'un, c'est de voir l'autre se casser le cou.
Bienvenue en ce mardi matin 9h30 à l'émission La Complainte du Travail, une émission qui vous est présentée par l'organisme Illusion Emploi, un organisme de promotion et de défense des droits des travailleurs et des travailleuses non syndiqués en Estrie. Alors aujourd'hui, vos animatrices sont Roxane Denigère.
Bonjour.
Bonjour. Et juste parler un petit peu plus fort, Roxane, d'accord? Et moi-même, Sandy Tremblay. Alors le sujet qu'on a choisi d'aborder à notre émission du 10 novembre, c'est le travail invisible. Alors, peut-être, en premier lieu, indiquer aux gens, Roxane, c'est quoi le travail invisible?
Le travail invisible, c'est assez complexe. En fait, c'est synonyme du travail non rémunéré. Ce que ça veut dire, c'est l'ensemble des tâches réalisées au foyer, soit accomplies au sein de la famille, ou soit par du bénévolat dans la communauté.
Donc, ça inclut les femmes, les personnes qui prennent soin de leur enfant à la maison.
C'est ça. Les femmes, les hommes, qui soient travailleurs, chômeurs, aux études, à la retraite. Non-travailleurs, on pourrait dire aussi. Fait qu'aujourd'hui, l'émission, ça va se centrer sur le travail invisible au sein de la famille. On va parler majoritairement des femmes, puisqu'encore aujourd'hui, les soins sont donnés majoritairement par des femmes.
Mm-hmm, effectivement. Il n'y a pas grand monde qui va nous assigner là-dessus. Et les tâches, on sait très bien que les tâches familiales sont encore principalement accomplies par des femmes.
En parlant de ça, je vais faire un portrait général de la famille actuelle, puisque ça a beaucoup changé. Je veux dire que mes données sont toutes tirées de la FEAS, ce que je vais vous expliquer plus tard, qu'est-ce que la FEAS.
Ah, tu vas nous expliquer le titre comme tel, qu'est-ce que ça veut dire?
Oui.
D'accord.
Donc, maintenant, tout le monde le sait à cause des divorces, mais pas à cause des divorces, puisque c'est légitime de se divorcer, mais la réalité de la famille a beaucoup changé quand même. Il y a 58% des familles qui sont composées des couples mariés maintenant. Il y a 25% des couples qui sont en union de fait. 17% des familles qui sont monoparentales. Les deux tiers des familles québécoises ont des enfants de moins de 24 ans à la maison. Une famille sur 10 est recomposée. Puis aussi, on remarque un retour à la famille élargie, donc des familles qui vivent soit deux familles sous le même toit, soit une famille qui vit avec un grand-père, une grand-mère, soit aussi avec les oncles et tantes. Okay.
Donc, c'est pas vraiment deux familles, mais c'est vraiment au niveau d'une famille élargie. C'est plus qu'un papa et une maman avec les enfants. C'est vraiment avec la grand-maman, le grand-papa, la tante, comme tu disais. Okay.
Plus qu'est-ce qu'on appelle justement le papa, maman, enfant, ça c'est une famille nucléaire, donc famille élargie. C'est les enfants, les restes du membre de la famille qui restent à la maison.
Excuse-moi. Ça l'explique aussi pourquoi, dans l'actualité, on entend beaucoup, beaucoup parler des logements puis des maisons intergénérationnelles. Hein. C'est sûr que s'il y a un retour à la famille élargie, ça peut être intéressant d'avoir un logement qui font en sorte qu'on est très proche l'un de l'autre, mais sans nécessairement toujours côtoyer le même espace vital.
C'est ça, parce qu'actuellement, il y a 70 à 80 % des soins personnels et des soins donnés aux personnes âgées qui sont par leur famille.
Oui, donc tous les gens en perte d'autonomie. Et ça, c'est vraiment une orientation vers laquelle le gouvernement tente de s'exiger, hein, malheureusement encore aujourd'hui, c'est qu'on redonne l'obligation à la famille de prendre en charge tous les soins à une personne en perte d'autonomie. Alors là, on va trouver majoritairement des femmes, encore une fois, qui ont à prendre soin en arrivant à la maison de leur journée de travail ou quoi que ce soit, de la belle-mère ou de la maman qui est en perte d'autonomie, puis de s'assurer que les rendez-vous médicaux sont pris, que les médicaments sont pris, que la nourriture est faite, etc. Ça augmente la tâche.
Donc, si on fait aussi une description des tâches, on dit travail au foyer, mais ça comprend l'ensemble des déplacements, donc comme on disait, les tâches, aller chez le dentiste, les enfants, l'hôpital, l'épicerie, tout ce qui est les commissions. Donc, ça a deux sphères, une sphère privée qui est toute ménage, repas, comme on disait aussi, ce qu'on appelle les commissions. Il y a aussi une sphère qui est publique, donc tout ce qui est, mettons, l'éducation des enfants ou les soins, qu'on parle soit d'une personne âgée, d'un adulte non autonome ou aussi d'un enfant qui a...
Un handicap.
Mm-hmm. Donc, c'est la sphère publique qui est à prendre en considération.
Et ça, c'est ce qu'on appelle les aidants et les aidantes naturelles, là.
Oui, okay. C'est ça. Non, c'est ça. C'est la sphère publique qui apprend la considération. C'est le, parce que ça rapporte à la société. Si on, toutes les femmes envoyaient leurs enfants dans les garderies, je crois que l'État rentrerait pas, en fait. Elle réussirait pas à offrir les services pour tout le monde.
À vrai dire, en ce moment, on est beaucoup, beaucoup... y a beaucoup de gens qui restent à la maison, puis l'État arrive même pas à fournir une garderie à prix modique à l'ensemble des travailleuses et des travailleurs qui ont des enfants. Alors, je suis d'accord avec toi que si toutes les femmes décidaient de joindre le marché du travail, on ne supporterait pas, évidemment, ça augmenterait le coût. Hein. C'est un coût que l'État sauve de ne pas avoir à offrir un service de garderie à tous ces gens-là. Même chose, vous avez une personne qui est dans un centre hospitalier de soins de longue durée, c'est l'État qui paye. Alors, quand c'est la famille qui prend en charge cette personne-là pour qu'elle reste soit dans leur demeure ou que la personne reste dans sa propre habitation plus longtemps, bien, c'est des sommes que l'État n'a pas à débourser.
C'est ça. Et en 1995, l'Organisation des Nations Unies, communément appelée l'ONU, estimait à 11 milliards US la valeur annuelle du travail invisible et non rémunéré des femmes à travers la planète. Donc, on se doute bien que ce chiffre-là a augmenté depuis.
Et ça, c'est par année.
Oui. Donc, d'un côté, ce qu'on disait, c'est que les services publics ne peuvent pallier à la demande parce qu'il y a un manque de personnel. Donc, les détails, entre autres, il n'y a pas de... Pardon, j'ai de la misère. Il n'y a pas de financement supplémentaire. En fait, on n'arrête pas de faire des coupures. Donc, ça fait que les délais sont longs, la liste d'attente, les soins sont de moins bonne qualité.
Juste les soins qui sont dispensés par le CLSC, les soins à domicile, ils sont très contingentés. C'est un nombre d'heures très limité. Normalement, ce qu'on constate dans la société, c'est que ça ne comble pas les besoins des gens qui désirent rester à la maison, mais qui sont en perte d'autonomie. Alors, il y a vraiment un désengagement de l'État et il y a des besoins de plus en plus grandissants, et surtout dans une société qui est vieillissante comme la nôtre.
Puis pourtant, on continue d'offrir deux choix aux femmes. Ou bien tu prends la charge chez toi à la maison et t'as rien, ou bien tu tentes de trouver une place en institution pour soit ton enfant, ta personne.
Et souvent, il va y avoir des frais associés à ça. Si tu as un enfant handicapé et que tu désires avoir accès à du répit, c'est pas gratuit, c'est pas toutes les familles qui peuvent se permettre d'avoir accès à ce répit-là. Là.
Non, c'est ça. Donc, ça cause aussi beaucoup de conséquences comme le stress, des conflits familiales, etc. Donc, juste avant d'aller à la pause, je pourrais vous présenter ce que c'est la FEAS.
Oui.
Ça a débuté en 1966, en même temps que tous les mouvements féministes, principalement. Ça s'appelle l'Association féminine d'éducation et d'action sociale qui intervient au niveau de la violence, du travail invisible et du droit familial, tout ce qui touche les femmes. En 2001, ils ont créé la Journée du travail invisible qui se tient à chaque année. C'est le premier mardi d'avril. Donc, le 7 avril dernier, la FEAS a demandé à la ministre d'État à la condition féminine de faire en sorte que Statistique Canada évalue et comptabilise le travail invisible par les Canadiens et les Canadiennes d'ici 2012.
Tantôt, tu nous as donné un chiffre qui correspondait au niveau international. Ça totalisait 11 milliards US. Mais ce serait vraiment très intéressant d'avoir le chiffre pour les Canadiens et Canadiennes, combien ça totalise. Intéressant comme sujet, on va y revenir tout à l'heure. Alors, on va se laisser en musique et avec une courte pause, on s'en va avec La vie est laide de Jean Leloup, qui est un petit peu dans le même thème quand même. Et on revient tout de suite après pour parler du travail invisible. Et d'ailleurs, tu parlais juste avant qu'on se quitte, avant que je l'oublie, la FEAS, c'est très intéressant que tu en parles parce qu'ils sont, comme tu le mentionnais, en grande campagne au niveau de la valorisation du travail invisible, hein, que ce soit qu'il y ait de l'argent qui soit apporté à ces gens qui font toutes ces tâches de travail-là que l'État aurait assumé si ces gens-là n'étaient pas là pour le faire. Alors, on se laisse en musique.
Thank you. CFLX 95,5 FM, la radio communautaire de l'Estrie.
Re-bienvenue à l'émission La Complainte du Travail, une émission qui vous est présentée par Illusion Emploi. On vous rappelle que nous sommes un organisme de promotion et de défense des droits des travailleurs et des travailleuses non syndiqués. Aujourd'hui, avec notre animatrice Roxane de Niger et moi-même, Sandy Tremblay, c'est rare que je me plante dans mon nom, mais quand même, on a choisi de vous parler du travail atypique. Alors, tout à l'heure, en première partie, on vous a expliqué que c'était tout le travail qui était effectué auprès des enfants, quand on fait des commissions en dehors de la maison, auprès des aidants et des aidantes naturelles aussi qui prennent en charge un membre de la famille en perte d'autonomie la plupart du temps ou un enfant qui vit avec un handicap. On vous a expliqué un peu c'était quoi le travail invisible. Ce vers quoi on s'enligne, c'est vous expliquer ce que ça a comme conséquence d'être un travailleur ou une travailleuse invisible.
Donc, dramatiquement, ce qu'on pourrait dire, ce que ça implique, c'est la pauvreté. C'est la pauvreté parce que tu subis une perte de revenus, parce que si tu travailles, tu t'absentes au travail. Tu as un travail atypique puisque tu travailles au temps partiel. Les employeurs trouvent que tu n'es pas productive, etc. Ils ne veulent pas te donner des postes où est-ce que tu es mieux payé, puisque tu as des tâches où est-ce qu'ils demandent que tu sois plus présent.
Il y a de fortes chances qu'à compétence égale, quand tu postules pour un emploi, si tu as une famille ou que tu prends soin d'une personne en perte d'autonomie ou quoi que ce soit et que ton employeur sait très bien que tu as cette implication-là et que ça agit sur ton travail dans le sens où, comme tu le disais, la personne doit prendre davantage de congés pour s'occuper de cet enfant ou de cette personne-là, qu'elle a un taux d'absentéisme un peu plus élevé, que ça joue en ta défaveur dans le choix de la personne à privilégier, même si tu as les mêmes compétences que l'autre personne qui est.
Donc, ça crée l'écart entre les hommes et les femmes. Ça agrandit l'écart. Puis, tu sais, ça perpétue des préjugés parce que, tu sais, on sait que les femmes, ils sont aussi majoritairement au salaire minimum et tout. Et,
c'est 6 personnes sur 10 au salaire minimum qui est une femme.
Donc, ça perpétue des conditions précaires de travail. Ça, ce que ça va faire, c'est aussi qu'en cas de divorce, bien, la femme va avoir plus de difficultés parce qu'elle est dépendante économiquement.
Effectivement. Et c'est comme si tu parlais des préjugés tout à l'heure, on a souvent l'impression, tu sais, quand on croise une femme qui est au foyer, bien, la femme, elle ne travaille pas. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Bien, je ne travaille pas. Puis même la plupart des femmes vont se définir comme ça. Qu'est-ce que tu fais dans ta vie? Bien, moi, je ne travaille pas. Non, tu es une travailleuse au foyer, mais tu travailles. Dans ta journée, ce n'est pas vrai que tu as le temps de passer ta journée devant la télé. Là, c'est loin d'être le cas. Pour la plupart des femmes. Là. Et ce travail-là, il n'est vraiment pas reconnu. Et comme tu disais, en plus de perpétuer des préjugés, ça maintient un lien de dépendance économique envers le pourvoyeur ou la pourvoyeuse de la famille.
Il y a un autre préjugé qui me vient en tête, c'est genre l'homme qui dit « Ah, moi, je la fais vivre, ma femme. »
Oui, effectivement. Puis ça peut être un choix. C'est un choix de couple la plupart du temps. Tout à l'heure, tu parlais de dépendance économique. Et je ne sais pas si c'est le temps qu'on en parle aussi ou si on va en parler plus tard. Mais les conséquences à long terme de cette dépendance-là sont très importantes pour les femmes. Si c'est le conjoint qui est au travail, qui gagne un assez bon revenu pour se permettre de soutenir économiquement la famille, mais ça reste qu'arrivée à l'âge de la retraite, la femme, elle n'a pas de régie des rentes, elle n'a aucune assurance, elle n'a pas de protection sociale qui sont accordées automatiquement à un travailleur ou une travailleuse, t'sais. Et même chose, en cas de séparation, tu parlais tout à l'heure qu'il y avait de plus en plus de conjoints de fait. En cas de séparation, si la personne n'est pas mariée, elle n'aura pas, puis même si elle est mariée, tu vas peut-être avoir une pension alimentaire pour les enfants, mais tu n'auras pas une rente pour toi, là. Alors, la décision que vous aviez prise en couple, qu'un seul des conjoints aille sur le marché du travail, bien, la journée où votre couple n'est plus, est désuet, où vous décidez de vous divorcer ou vous séparer si vous êtes conjoint de fait, bien, il n'y a rien qui est attribué à la femme. Du jour au lendemain, elle se retrouve à être éloignée du marché du travail depuis plusieurs années dans plusieurs des cas. Donc, l'expertise est moins là. Et il n'y a pas de revenus. Elle se retrouve avec l'aide sociale, puis si elle est chanceuse, avec une pension alimentaire. Puis ça, c'est quand elle n'est pas coupée, quand on ne coupe pas la pension alimentaire des revenus de l'aide sociale. Alors, la femme est doublement pénalisée. Et quand on est éloigné pendant un certain nombre de temps du marché du travail, ça vient augmenter nos chances que l'emploi qu'on se trouve soit à temps partiel, au salaire minimum, sans avantages sociaux, etc. Là.
Donc, tu as très bien résumé, quand on ne travaille pas, on ne cotise pas aux prestations d'assurance parentale ou à l'assurance emploi et au régime de retraite. Donc, si on ne cotise pas, on n'a pas de fonds.
Oui, effectivement. Entre autres, c'est intéressant ce que tu dis là, parce qu'effectivement, que la femme qui choisit d'être à la maison a un deuxième enfant ou a un enfant, si elle n'a pas travaillé, elle n'a pas accès au régime d'assurance parentale.
Donc, c'est une insécurité financière aussi. On n'a pas parlé, mais la violence économique, c'est très important. C'est à prendre en considération. Dans le fond, quand les hommes, c'est le seul revenu, bien, ils décident de qu'est-ce que tu vas t'acheter aussi.
Oui. C'est sûr que dans certains cas, il peut y avoir une très grande communication, puis ça peut se faire de manière très équitable, mais ça reste que le gros bout du bâton, bien, c'est pas toi qui l'as, t'as pas la dépendance économique. Voilà. Alors, est-ce que on peut, est-ce que la FEAS a choisi des objectifs
principaux pour son action?
Merci beaucoup.
Oui. En fait, c'est divisé en deux axes parce qu'il y a les services de santé pour les aider à domicile, des mesures économiques, la reconnaissance du travail pour les aidants et aidantes. Mais il y a aussi le travail à la famille. Ça, c'est séparé en deux axes. Donc, pour la famille, c'était obtenir la mise en place de mesures concrètes pour permettre la conciliation des responsabilités familiales et professionnelles.
Qu'est-ce qu'on entend par conciliation, là, famille-travail? Si je pense qu'on peut résumer conciliation des responsabilités familiales et professionnelles par la conciliation travail-famille qu'on entend souvent parler. Qu'est-ce que c'est ça?
Bien, on parlait des heures de garderie. Si tu ne travailles pas de 8 à 5, c'est quoi les services de garderie qui sont? À date, ce n'est pas accessible du tout.
Il existe quelques garderies qui vont offrir un service de soir. Je parle de garderies subventionnées. Là. C'est sûr qu'on peut toujours trouver une garderie à 20 $, mais quand tu travailles à temps partiel, au salaire minimum, puis que ta garderie te coûte 20 $ par jour, c'est 3 heures de ta journée pratiquement, c'est plus que 2 heures de ta journée qui s'en vont juste pour payer la garderie. Là.
Donc, on parlait aussi de congé familial payé.
Oui.
Et je crois que tu peux nous donner un exemple sur l'ancienneté, ça.
Oui. En fait, au niveau de la conciliation travail-famille, il y a tout un débat en ce moment dans la société au niveau des gens qui sont syndiqués. C'est-à-dire que dans un milieu syndiqué, on reconnaît l'ancienneté. Et souvent, l'ancienneté va aller avec le choix des vacances. Plus la personne a de l'ancienneté dans une entreprise, plus elle a priorité pour choisir le temps de ses vacances. Et on s'entend-tu qu'au Québec, la plus belle saison pour prendre des vacances, c'est l'été. Alors, dans une institution qui est assez grande, on peut penser notamment au réseau de la santé, où il y a énormément de travailleurs et travailleuses. Le jeune travailleur ou la jeune travailleuse, c'est le même débat pour les hommes et les femmes, qui ont des jeunes enfants. On a rarement l'occasion de prendre des vacances durant l'été parce que toutes les personnes qui ont de l'ancienneté vont choisir ce temps-là. Et c'est légitime qu'ils le fassent. Là. Tout à l'heure, on en parlait de légitimité. C'est légitime qu'ils le fassent puisqu'ils ont attendu, dans la majorité des cas, une vingtaine d'années là, pour avoir accès à ça. Par contre, ça fait en sorte qu'au niveau conciliation travail-famille, les jeunes travailleurs et travailleuses du réseau de la santé n'arrivent pas à avoir, du secteur public, on s'entend, ont de la misère à avoir des vacances durant l'été. Ont de la misère à avoir des vacances, là, si c'est possible, pendant la semaine de relâche. Donc, les temps où les enfants sont en vacances, eux autres n'ont pas accès. Ils sont obligés de travailler, puis ils vont avoir leurs vacances au retour quand l'école va recommencer. Alors, ça amène toute une discussion, une problématique où il faut se pencher là-dessus parce que l'impact que ça a, on a beau dire que c'est légitime l'ancienneté, puis ça va avec des priorités, notamment dans le choix des vacances, ça amène la problématique que qu'on a une pénurie de main-d'œuvre dans le secteur de la santé, parce que les travailleurs et les travailleuses qui sont en train de fonder une jeune famille choisissent bien souvent d'aller dans le secteur privé en se disant « oui, le salaire va être un petit peu moins élevé, mais je vais travailler de jour au lieu de nuit, puis je vais réussir à avoir des vacances l'été, puis il y a d'autres avantages qu'ils vont aller chercher ». Alors, il faut vraiment, dans ces domaines-là, puis je pense que c'est le défi de plusieurs syndicats dans les années qui suivent. D'ailleurs, on sait très bien qu'au Conseil central de la CSN, qui ont beaucoup de syndiqués dans le milieu de la santé, c'est cette année leur plus gros, leur axe sur lequel ils vont se pencher, c'est de trouver moyen de rapprocher la conciliation travail-famille dans les milieux de travail au niveau de la santé. Tu parlais tout à l'heure des haltes-garderies. Évidemment, on pourrait faciliter l'accès aux haltes-garderies, faciliter aussi les horaires anormaux. Hein. On s'entend que c'est pas tout le monde ne travaille pas de 8 à 6, de 8 à 5, ou en tout cas dans ces heures-là. À Illusion Emploi aussi, on fait la promotion d'une convention de travail type. Et à l'intérieur de celle-ci, on retrouve notamment une troisième, voire même une quatrième semaine de vacances quand l'employé a totalisé plus d'un an de service continu. Alors ça, c'est une mesure de conciliation travail-famille. On a aussi les congés familiales. Dans la loi sur les normes du travail, on accorde à un travailleur ou une travailleuse 10 jours dans l'année où la personne peut s'absenter. Merci.
Mais, par exemple, ils ne sont pas payés, tandis qu'à Illusion Emploi, je crois que vous êtes payés.
Exactement. Alors, la personne, oui, elle peut s'absenter si sa mère ou son enfant est malade, mais si tu n'es pas payé, si tu es à faible revenu, si ton budget est hyper serré, tu ne te permettras pas de prendre cette journée-là parce que tu peux pas, tu peux tout simplement pas te le permettre. Alors, le fait de payer par l'employeur, c'est une partie de ces congés-là. Nous, on n'a pas 10 congés payés, mais on en a certains qui sont payés. Ça fait partie des mesures en place qui peuvent être concrètes de conciliation famille-travail.
C'est ça. Donc, que ce soit des prestations financières, des crédits d'impôt remboursables, il faut concilier la travail-famille-études, parce que aussi, des fois, c'est les trois.
Mm-hmm.
Moi, je n'imagine pas avoir une famille en ce moment. pour les aidants aussi, ce qu'on n'a pas mentionné, mais ce qui est important, c'est que les coûts d'équipement spécialisé et adapté sont très coûteux. Tout ce qui est médicaments ne sont pas nécessairement tout remboursables, donc ça demande des coûts élevés. Puis d'un autre côté, la femme qui prend en charge habituellement ne travaille pas ou très peu, donc il y a un petit peu une incohérence à ce niveau-là. Sinon aussi, on est pour la mise en place de services et de programmes de type familial alternatif. Comme si on veut pas mettre les personnes âgées nécessairement en CHSLD.
Les centres hospitaliers de soins de longue durée.
Pour toutes sortes de raisons, mais c'est le fun d'avoir une alternative aussi.
Effectivement, parce que c'est intéressant que la personne qui est en perte d'autonomie ait le choix aussi de comment elle a envie de vivre ces derniers moments-là, ces dernières années. Est-ce que parce qu'elle a de la misère à se faire de la nourriture à tous les jours, parce qu'elle a de la misère à fonctionner, elle est automatiquement obligée de s'en aller en CHSLD? Est-ce qu'elle ne peut pas, si la personne le désire, rester chez elle, mais avoir accès à des services de proximité, à domicile, pour prolonger le plus longtemps possible, le temps qu'elle va rester à la maison? C'est bon pour l'estime de soi des personnes, c'est bon pour le bonheur. La valeur du bonheur est très grande aussi, là. Alors, c'est toutes des choses qu'il faut mettre en place et c'est un dossier sur lequel les FEAS, en général, vont lutter dans les prochaines années.
C'est certain qu'on n'est pas d'accord avec toutes les revendications de la FEAS, comme par exemple, eux, ils sont pour une prestation universelle, donc un revenu pour tous ceux qui pour les femmes au foyer, si je comprends bien.
En fait, oui. Au-delà, par contre, je ne peux pas dire qu'on n'est pas d'accord. On est d'accord à reconnaître le travail, mais il faut voir dans la définition et dans l'application comment est-ce que ça va être modulé pour pas qu'il y ait de disparité de traitement entre les femmes qui font les mêmes responsabilités, mais qui sont au travail, et les femmes qui ont ces responsabilités-là, mais qui, elles, ne vont pas au travail. Alors, c'est surtout dans l'application. On reconnaît le droit à tous et à toutes d'avoir un revenu décent, et on reconnaît la capacité, le travail invisible qui est fait, mais il faut voir dans l'application et dans la définition comment ça va s'appliquer dans la société. Alors, on appuie le travail des AFEAS, mais évidemment, il y a encore
un gros débat à effectuer, en fait, parce que c'est quand même un sujet complexe. Donc, dans l'application des mesures, qu'est-ce qui va se passer? Là, il va falloir se positionner.
Effectivement. Alors, si jamais le sujet vous intéresse, contactez les AFEAS. Si vous avez accès à Internet, tapez. Est-ce qu'on a dit comment ça s'appelait? Les associations féminines d'éducation et d'action sociale?
Oui.
Alors, vous n'hésitez pas à taper AFEAS sur votre ordinateur et vous aurez accès facilement à...
AFEAS, c'est AFEAS.
Merci. Alors, vous tapez ça et vous aurez accès à l'AFEAS le plus près de chez vous. Et si jamais vous ne vous souvenez pas du nom exactement, mais que ça vous intéresse, appelez-nous à Illusion Emploi. On va vous donner les coordonnées. On va chercher ça pour vous. Puis on va vous donner les coordonnées de l'AFEAS le plus près de chez vous. Alors, si on veut que les gens nous appellent, donnons nos coordonnées.
569-9993. Nous sommes situés au 187 Laurier. Le bureau 214.
Oui.
Et par Internet au
www.illusionemploi.org. Alors, vous n'hésitez pas. Et si vous voulez nous envoyer un courriel, c'est le illusion à commercial aide, AIDE-internet.org. Alors, avec toutes ces coordonnées-là, c'est sûr qu'on va vous retrouver quelque part. Alors, on vous souhaite une très belle journée. En souhaitant que la neige n'arrive pas tout de suite. Et on se retrouve la semaine prochaine. On vous laisse sur une musique, une publicité de CFLX au retour. Et sur ça, merci beaucoup, Roxane, de la présentation d'aujourd'hui.